Chapitre 1. Violette. Le matin du 12 mai 1588, six gentilshommes, pareils à des oiseaux effarés qui fuient la tempête, montaient à fond de train sur les hauteurs de Chaillot. Sur le sommet, leur chef s'arrêta. Pâle de désespoir, il se retourna vers Paris qu'il contempla longuement. D'étranges rumeurs, des bruits sourds d'arquebusades lui arrivèrent par bouffées, semblables aux ressacs lointains d'une mer démontée ou d'un peuple déchaîné. Un rauque sanglot déchira sa gorge. Ses deux poings se tendirent dans un geste de menace. Il se raidit, se haussa sur ses étriers comme pour mieux lancer un anathème, et hurla ces paroles qu'emporta le souffle du vent et que recueillit l'histoire. « Ville ingrate, ville déloyale, toi que j'ai aimé plus que ma propre femme !» « Tremble, car je ne rentrerai dans tes murs que par la brèche !» À cet instant, deux cavaliers apparurent. L'un paraissant avoir dépassé la trentaine, admirable de vigueur, avec une de ces physionomies audacieuses et railleuses, étincelantes et mordantes, glaciales et géniales, qui laissent d'ineffaçables impressions. L'autre, 18 ans, svelte, gracieux, merveilleux de beauté délicate et hardie. Les cinq fidèles qui, tout blême, entouraient le fugitif, voyant s'arrêter ces deux inconnus, cherchèrent à l'entraîner. Mais lui, levant les bras au ciel, fit entendre un lugubre gémissement et cria « Malédiction sur moi! Tout m'abandonne! Oh, qui à présent voudra me prendre en pitié ?»« Moi !» répondit une voix sonore. Le fugitif vit le plus jeune des deux étrangers qui avançaient. Alors une terreur subite, inexplicable, exorbita son regard affolé, ses mains frappèrent le vide comme pour repousser une affreuse vision et ses lèvres blanches bégayèrent. « Toi, toi, Charles, mon frère, es-tu donc sorti du tombeau pour m'accabler ?»« Vous vous trompez, » répondit l'inconnu. « Je ne suis pas celui qui évoque votre remords. Je ne suis pas Charles IX. »« Et qui donc es-tu alors ?» « Je suis son fils, je suis Charles, duc d'Angoulême. »« Ah !» gronda le fugitif, « c'est toi l'enfant de Marie Touchet et de Charles, c'est toi le bâtard d'Angoulême. Eh bien, parle, que me veux-tu? Que viens-tu demander à Henri III, roi de France ?»« Je vais vous le dire, j'ai quitté Orléans pour vous parler en face. Il y a 8 jours, sire, j'ai atteint ma majorité. Ce jour-là, ma mère m'a conduit dans sa chambre et a découvert un portrait que j'avais toujours vu voilé d'un crêpe. J'ai reconnu Charles IX. « Mon frère !» balbutia Henri III. « Oui, votre frère. Alors ma mère s'est agenouillée. Elle m'a raconté comment était mort l'homme qu'elle avait adoré. J'ai su l'effroyable agonie de mon père. J'ai su que, désespéré, lamentable, poussé à la folie, chacun des soupirs de sa dernière heure fut une terrible accusation contre 3 bourreaux, 3 démons qu'elle me désigna. Et je suis parti pour dire au duc de Guise, « Traître et rebelle, qu'as-tu fait de ton roi ?»« Guise, rugit Henri, tu le trouveras dans mon palais, sur mon trône peut-être. » Je suis parti pour crier à Catherine de Médicis, « Mère infâme, mère sans entrailles, qu'as-tu fait de ton fils ?» « La reine mère !» sanglota Henri. « Tu la trouveras dans les prisons de Guise. » Je suis parti pour trouver Henri de Valois, roi de France, et lui crier ce que durent crier jadis les enfants d'Abel à leur oncle. « Caïn, qu'as-tu fait de ton frère ?» À cette dernière apostrophe, le roi, d'une violente saccade, fit reculer son cheval. Puis il s'affaissa sur lui-même, secoué d'un tremblement mortel, et sourdement répéta. Caïn. Une clameur alors éclata parmi les 5 gentilshommes qui vociférèrent. Le roi est toujours le roi. Vive le roi. À mort l'insulteur. En même temps, ils dégainèrent. À cet instant, le compagnon du duc d'Angoulême bondit au milieu du groupe furieux, tira une longue rapière qui, au soleil levant, jeta un rapide éclair et, très calme, messieurs, dit-il, ceci est une affaire intime. Laissez l'oncle et le neveu s'expliquer à la douce, ou bien je croirai que vous êtes de la famille, et dans ce cas, je serai forcé de croire que j'en suis aussi, moi. Les cinq s'avancèrent grinçant de fureur. Et les épées allaient s'entrechoquer lorsque le roi fit un signe impérieux. Les gentilshommes s'arrêtèrent en grondant. « On se retrouvera, si toutefois monsieur ne cache pas son nom. » « Messieurs, dit froidement l'étranger, sans relever cette insolence, mon épée et mon nom sont à votre disposition. Je m'appelle le chevalier de Pardeillan. » Les cinq tressaillirent, et ce nom, jeté avec une glaciale simplicité, leur apparut sans doute dans l'éclat fulgurant d'héroïques souvenirs, car ils répétèrent dans un murmure d'admiration et d'effroi « Le chevalier de Pardeillan !» Le chevalier ne parut pas avoir remarqué le prodigieux effet produit par son nom. Il se retira à l'écart, comme si cette scène violente eût cessé de l'intéresser. Et, sifflotant entre les dents une fanfare de chasse du temps de Charles IX, il se mit à examiner une troupe de cavalerie qui, sortant de Paris, s'approchait de Chaillot, sans trop de hâte d'ailleurs. Le duc d'Angoulême n'avait pas bougé. Sombre comme une figure du remords, Henri III se tourna vers lui. « Jeune homme, dit-il, il manquait à mon malheur de vous rencontrer sur le chemin de l'exil. Priez le ciel qu'au jour où je remonterai sur mon trône, je puisse oublier que vous avez insulté à ma misère. Ce jour-là, vous me verrez me dresser sur les marches de ce trône. Je vous arracherai votre manteau royal. Et quand je vous aurai mis à nu, je crierai encore « Voici Caïn qui tua son frère !» Henri III se mordit les poings et jeta dans l'espace un sourd gémissement. « Jusque-là, continua Charles, je ne puis vous haïr. Vous n'avez droit qu'à ma pitié. Paris vous chasse, vous n'êtes plus qu'un fantôme de roi que hante le fantôme d'une victime. Allez donc, sire, car voici qu'on se met à votre poursuite. Regardez, jusqu'à ce que vous soyez redevenu roi de France, le fils de Charles IX vous fait grâce. » Henri III, blême de rage, voulut balbutier quelques mots qui se perdirent dans un sanglot. Mais ses fidèles, apercevant le gros de cavalier qui sortait de Paris, saisirent son cheval et l'entraînèrent. Bientôt leur troupe disparut comme un nuage de poussière que balait l'orage. Charles d'Angoulême demeura songeur, les yeux fixés sur Paris. Que se passait-il dans cette âme? Pourquoi ce jeune homme ne suivait-il pas d'un dernier regard de haine le roi à qui il venait de jeter de tels défis? Oui, pourquoi ce regard, qui eût dû lancer des éclairs, était-il attiré vers la grande ville comme par un aimant de tendresse? Un nom avec une infinie douceur vint voltiger sur ses lèvres, et ce nom c'était Violetta. Peu à peu, par degrés, les derniers reflets des sentiments violents qui venaient de l'agiter s'éteignirent sur son visage, qui s'éclaira alors d'un sourire très doux, comme l'apaisement du crépuscule remplace à l'horizon l'incendie du soleil couchant. D'une voix d'extase, il murmura « Paris ! Oui, je viens y chercher la vengeance, mais je viens y chercher aussi l'amour. Insensé, ose donc t'avouer à toi-même que si Violetta était encore à Orléans, tu ne serais pas ici. Paris, c'est là que je vais te retrouver, chère inconnue qui emporta mon âme. Violetta, douce violette d'amour. » À ce moment, le chevalier de Pardeillan s'approcha de lui et le toucha à l'épaule. D'un geste large, il enveloppa Paris. Et, regardant le fils de Charles IX dans les yeux, jusqu'au fond de l'âme, il prononça « Un trône à prendre, monseigneur !» Charles d'Angoulême eut le tressaillement du rêveur qu'on arrache soudain au plus doux songe. Et il balbutia « Un trône? Quoi? Vous songeriez donc à vous emparer ?»« Pas pour moi, monseigneur, dit le chevalier de sa voix paisible et mordante. J'ai autre chose à faire, deux mots à dire à un certain Maurevers que je cherche depuis une éternité. » Et puis, il me faut des sièges solides à moi. Ce trône est trop lézardé. Qui sait s'il ne s'effondrerait pas si l'idée me venait de m'y asseoir? » Peut-être le duc d'Angoulême, comme les gentilshommes d'Henri III, connaissait-il le formidable passé de cet homme? Ces énormités lui semblèrent toutes naturelles venant de lui. « Mais vous, reprenait le chevalier, Vous pouvez, vous devez. Pardéian, pardéian, que dites-vous ? Murmura le jeune duc éperdu. Je dis simplement qu'Henri de Valois n'est plus roi de France, qu'Henri n'est encore que roi de Paris. Qu'Henri de Navarre jette par ici son regard de faucon qui cherche une proie, je dis que cela fait 3 larrons pour la même couronne, et que cette couronne, il serait beau qu'elle puisse me servir, en la posant sur votre tête, à payer ma dette de reconnaissance à votre mère. » À ces mots, Pardéian se lança sur un sentier qui courait autour de Paris et traversait les hameaux du Roule et de Monceau pour aboutir au village de Montmartre. « Violetta, murmura le jeune homme, que n'ai-je en effet un trône à t'offrir ?» Et palpitant, ébloui de ce qu'il entrevoyait dès lors, Charles d'Angoulême se jeta à la suite de son compagnon au moment où le gros de cavaliers qui était sorti de Paris montait les pentes de Chaillot. Celui qui marchait en tête de ses poursuivants était un homme de 38 ans, magnifique de costume et de taille, beau de visage, hautain de gestes, sombre de physionomie, le front balafré par l'entaille d'une ancienne blessure, on ne sait quoi de majestueux, de rude et de violent dans l'attitude. C'était Henri de Lorraine, duc de Guise. « Messieurs, dit-il en s'arrêtant, le roi est déjà loin. Il nous faut renoncer à l'espoir de le ramener à ses sujets. »« Dites un mot, fit un gentilhomme près de lui à voix basse. Donnez-moi 10 bons chevaux et je le ramène vif ou mort. » « Mon revers, es-tu fou ? » dit le duc sur le même ton. « Laissons faire ! Laissons fuir !»« Allons, messieurs, ajouta-t-il tout haut, nous avons fait ce que nous avons pu. »« Holà ! Quelle est cette figure d'enfer ?» À ce moment, en effet, débouchait sur la hauteur par un chemin de traverse, une longue et lourde voiture à demi détraquée, grinçante, geignante, déteinte par la pluie et le soleil, une façon de roulotte poussiéreuse traînée par un squelette de cheval. Et près de la bête poussive marchait d'un pas de spectre une bohémienne masquée de rouge, portant avec une étrange noblesse son costume bariolé, enveloppé dans un manteau sur lequel retombaient ses cheveux d'un blond magnifique, une coulée d'or en lave. Avec son port de reine, sa démarche raidie, son masque rouge, son allure automatique, fantomale, sans un geste, c'était une apparition à donner le frisson. « Qui es-tu ? » demanda le duc de Guise en poussant vers elle son cheval. « Sors-tu de chez Satan ou bien retournes-tu à lui ?» La bohémienne s'arrêta, mais elle ne dit pas un mot. « Par le ciel ! » s'écria le duc, « je crois que cette gitane se moque. » Il n'acheva pas. À cette seconde, de l'intérieur de cette chose innommable qu'était la voiture, s'échappait une mélodie. Une voix d'une incomparable pureté chantait doucement. Et elle s'accompagnait d'une guitare dont les sonorités assourdies faisaient vibrer de profondes émotions. Le duc de Guise, soudain pâli, frémissant, écoutait à demi penché sous le charme. « Oh, cette voix ! C'est la sienne ! C'est elle ! Sorcière, qui chante là ? Parle ! Es-tu donc sourde ou muette ?» Un homme à cet instant s'élança de la voiture et se courba en une pose de respect exorbitant et ironique. « Le bohémien Belgodère !» murmura Henri de Guise, dont le front s'empourpra. Et cherchant à cacher la violente émotion qu'il étreignait, « Dis-moi, bohème, quelle est cette femme masquée, plus silencieuse que la nuit, plus mystérieuse que la tombe ? » « Excusez-la, monseigneur, c'est Saïzouma, une pauvre folle que j'ai recueillie un jour qu'elle sortait de prison. Sa folie, c'est d'avoir le visage toujours couvert, afin, dit-elle, qu'on ne puisse voir sa honte. Elle vous dira pourtant la bonne aventure. » « Inutile, qui es-tu toi-même ? D'où viens-tu ? Où vas-tu ? » Le bohémien se campa, se drapa. « D'où je viens, monseigneur, du bout du monde. Où je vais, à Paris, centre du monde. Qui je suis, Belgodère premier et dernier du nom, bateleur, jongleur, avaleur de sabre et bon à tout métier. Vous faut-il le spectacle, je vous montrerai. » « Il suffit, bohème. Dis-moi, n'étais-tu pas à Orléans il y a 3 mois ? J'y étais, monseigneur, dit Belgodère. J'y étais avec toute ma troupe, y compris la merveille des merveilles, la chanteuse Violetta, qui charme jusqu'au rocher, comme le sieur Orpheus, jusqu'aux bêtes sauvages, que dis-je, jusqu'au prince. Monseigneur va la voir. Violetta, Violetta mia, arrive par l'enfer. Ah, la voilà. Une jeune fille de 15 ans apparut toute tremblante sur le devant de la voiture. Me voici, maître, me voici. Un murmure d'admiration parcourut les 50 cavaliers rangés autour de Henri de Guise. Le duc demeura ébloui. Oui, c'est elle, fit-il en lui-même. J'éprouve le même trouble que lorsque je la vis pour la première fois. Par les saints, qu'ai-je donc à m'émouvoir ainsi? Cette fille de Bohême sera à moi si je veux. Ah, c'est que cette fille de Bohême était vraiment une merveille, comme disait Belgodère. Elle était une magie de grâce, avec ses cheveux d'or, étrangement semblable à ceux de la bohémienne Saïs Humain, épandue sur ses épaules demi-nues, ses yeux d'un bleu intense où semblait se refléter la pureté des aubes d'été, cette fierté timide qui la faisait comparer à une fleur sauvage. Voyant ces étrangers qui fixaient sur elle des yeux étincelants, elle baissa la tête. Alors son regard rencontra celui du duc de Guise et un geste de terreur lui échappa. Elle se recula, s'effaça derrière les rideaux de cuir et courut à une femme qui, étendue sur un matelas, la tête près d'une petite fenêtre ouverte au ras du plancher, livide comme une mourante, respirait péniblement. « Mère, mère !» murmura Violetta. « L'homme d'Orléans, il est là. Oh, j'ai peur. Le malheur rôde autour de moi. » Et ce mot de mère semblait inexact, de cette fille exquise à cette femme aux traits communs, quoique plein de bonté, à peine affinée par l'aphtésie. « Pauvre enfant » râla-t-elle. « Bientôt, je n'y serai plus pour te protéger. Puisse le ciel avoir pitié de toi et te faire rencontrer un sauveur. »« Un sauveur, mère ? Hélas, hélas !»« Espère, Violetta, ce jeune homme qui n'osa jamais t'adresser la parole, je crois avoir lu dans son âme. Il t'aime !» Violetta poussa un cri, se couvrit le visage des deux mains. « Violetta ! Violetta ! » hurlait le bohémien. « Attends, je vais te chercher !»« Laisse cet enfant tranquille !» ordonna le duc de Guise en se baissant vers Belgodère. « Et réponds-moi, tu vas à Paris ?»« Oui, monseigneur, et dès demain, jour du grand marché aux fleurs, je serai en place de grève avec Violetta. »« C'est bien, ramasse !» Le bohémien happa au vol la bourse pleine d'or que le duc laissa tomber. Henri de Guise se pencha davantage. Cette bourse contient 10 ducats d'or. 10 bourses pareilles, tu entends, si tu exécutes fidèlement tout ce que quelqu'un viendra demain te dire de ma part. Belgodère s'inclina jusqu'à terre. Quand il se releva, il vit le duc qui, s'étant mis à la tête de ses cavaliers, reprenait au grand trot le chemin de Paris. Alors il se redressa de toute sa hauteur, jeta un coup d'œil oblique sur la voiture où avait disparu Violetta et gronda « Je tiens ma vengeance !»